Nous tissons la trame de l'histoire.
Quand la Grèce rentrait dans l'Europe.
Notre victoire est aussi la victoire de tous les peuples d'Europe qui se battent contre l'austérité, celle qui détruit notre avenir commun. Vous avez gagné contre la peur. Continuons cette bataille difficile. Que le soleil se lève sur la Grèce.
Alexis Tsipras, le nouveau Premier ministre grec qu'on vient d'entendre, naît à peine en 1974. Et à l'époque, en l'espace d'un an, la Grèce, le Portugal, l'Espagne se débarrassent de leur dictature. Les pays méditerranéens entrent dans l'ère démocratique et l'Europe, alors composée de 9 membres seulement, salue la nouveauté et s'élargit. Alexis Tsipras naît à peine, mais les souvenirs de la période antécédente restent vifs alors chez les électeurs. La Seconde Guerre avait tourné en Grèce à une véritable guerre civile, 46-49, et rebelote, 1967, une dictature militaire s'installait. L'opinion européenne avait été sidérée par l'imbécilité des colonels, cliques sans projet qu'obsédait le succès des Beatles, la longueur de la jupe des femmes. Une fois le pays revenu au tempo du continent, il était impensable de ne pas l'intégrer au concert. C'est chose faite dès 1981. L'étape suivante, 20 ans plus tard, l'entrée dans l'euro ne fut pas marquée de la même valeur réparatrice. On ne se souvient pas cependant qu'elle ait soulevé un vrai débat. Mais cette fois encore, l'argumentation politique avait été plus forte que l'économique. La Grèce n'était plus seulement un symbole, comme en 81, mais le pays charnière avec les Balkans et la Turquie, zone sensible. Elle devait être la vitrine de l'Europe dans la région.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Olivier Delorme, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Français de Paris qui vit une bonne partie de l'année en Grèce.
Dans une petite île du Dodécanèse.
Face donc à la Turquie. Vous avez écrit et publié il y a un an 3 volumes, mais c'est en format de poche, chez Folio, le grand livre de synthèse sur la Grèce et la région, que vous rêviez de lire quand vos pas ont commencé à vous mener dans ce pays, parce que vous êtes de tradition, employons ce gros mot tout de suite, philhellène.
Alors oui, il y a un vieux philhellénisme français et européen de l'Ouest qui naît avec le mouvement révolutionnaire romantique et qui va donner lieu à toutes sortes de malentendus entre la Grèce et l'Europe de l'Ouest, donc dont peut-être nous ne sommes pas tout à fait étrangers, auxquels nous ne sommes pas tout à fait étrangers aujourd'hui. Donc ces gens qui vont voir les Grecs se soulever pour obtenir leur indépendance en 1821 partent les aider. Ils pensent à l'époque trouver les fils de Platon, de Lycurgue, voilà, et ils trouvent des Grecs de l'époque qui ont vécu 4 siècles d'occupation ottomane. Et de cela va naître un dépit, une incompréhension dont peut-être là encore nous sommes en partie les prisonniers aujourd'hui.
Et un contre-mouvement qui s'appelle
le misellénisme, celui qui est les Grecs et dont on a vu quelques exemples ces dernières années avec les histoires du grec voleur, fraudeur, menteur qui réapparaît comme ça. Alors ce misellénisme, il s'enracine même au-delà. Hein. Il commence avec la rupture entre Byzance et Rome et on le voit courir tout au long de l'histoire.
Alors vous avez des personnages favoris dans l'histoire de la Grèce. On va en prendre un de l'époque de l'indépendance, 1821. C'est le grec rebelle, le général Makrianis.
Makrianis, un homme fantastique, un homme du peuple, mais un homme du peuple qui est très caractéristique de cette époque, c'est-à-dire qu'il est éclairé par les lumières occidentales. Il y a un vaste mouvement de réappropriation de l'héritage, d'appropriation de l'héritage des Lumières, y compris dans les couches populaires de la population à la fin du XVIIIe siècle, qui va donner la guerre d'indépendance. Et Makrianis est un homme du peuple, un analphabète, mais qui vous parle de l'état de droit comme le ferait Montesquieu, qui vous parle du patrimoine, qui vous parle de la souffrance des animaux sur le champ de bataille. Cet homme est absolument extraordinaire, et le plus extraordinaire, c'est que pour ne pas être trahi par les lettrés, par les lettrés en leur racontant son histoire, que ces lettrés raconteraient à leur manière, cet homme apprend à écrire, cet analphabète apprend à écrire phonétiquement pour pouvoir raconter sa guerre et raconter son rôle politique, qui est un rôle politique assez important jusque dans les années 1850.
Et puis on va prendre une autre figure. Alors là, nous arrivons dans le champ européen et dans l'époque contemporaine, un patricien, un avocat de Macédoine, Constantin Karamanlis, que vous aimez beaucoup. Vous êtes un peu gaulliste, vous.
Ah bah, je ne vais pas vous cacher, oui. J'ai commencé ma carrière d'historien à l'Institut Charles de Gaulle. Et je suis marqué par les idées d'indépendance nationale, de souveraineté.
De Gaulle disait de la Grèce, c'est un peuple dont la vie politique est aussi dentelée que ses côtes et aussi complexe que son relief.
Et Karamanlis parvient à le maîtriser. Ce qui, sous la plume de De Gaulle, n'est pas si commun dans les compliments qu'il peut faire à ses collègues.
Alors, c'est quelqu'un qui, comme De Gaulle, veut se tenir un peu à distance des États-Unis et plus encore que De Gaulle s'intéresse à l'Europe et à son premier passage au pouvoir, conclut un accord d'association en 1961 qui prépare une adhésion future et qui ne va être possible qu'une fois la dictature des colonels disparue. L'entrée dans l'Europe telle que la voyait Constantin Karamanlis, puis ensuite on entendra un de ses adversaires.
La Grèce, quelle que soit la distance qui la sépare géographiquement de l'Europe, est étroitement liée avec celle-ci, politiquement et culturellement. Nous avons une parenté culturelle, puisque la civilisation européenne est fondée sur la civilisation hellénique. Même le nom de l'Europe provient de la Grèce.
38% seulement des Grecs étaient favorables à leur entrée dans l'Europe. Il y en a encore beaucoup qui regrettent que ce soit fait. Exemple, cet économiste socialiste, Théodore Pangalos.
Pour le gouvernement grec, qui, comme vous le savez, est un gouvernement de droite atlantiste, il fallait que la Grèce rentre dans l'OTAN, intègre le marché commun, et comme ça, trouve sa position dans la communauté occidentale, étant donné que l'aventure de la dictature, qui était une dictature qui était soutenue par les États-Unis et pour laquelle la plupart des pays européens ont été absolument indifférents, n'est-ce pas, a fortement ébranlé l'attachement de l'opinion publique aux valeurs qui sont représentées par l'Occident. Il y a des idées neutralistes qui sont très fortes en Grèce. Et il fallait à tout prix utiliser l'argument de l'adhésion de la Grèce au marché commun pour créer en quelque sorte un fait accompli.
Je retiens que le chiffre qu'avance Théodore Pangalos, qui souvent est capable d'écarts de langage ou d'erreurs arithmétiques, est peut-être pas exact, 38% seulement de sondés favorables, mais je retiens que l'opinion est partagée à ce moment-là.
Alors, il faut dire deux choses sur Karamanlis. C'est un homme de droite, c'est un homme d'ordre, c'est un homme qui reste attaché à l'Alliance Atlantique, comme le dit Pangalos. Mais en même temps, c'est un homme qui défend l'indépendance de la Grèce et qui va sortir deux fois la Grèce de l'organisation militaire intégrée de l'OTAN à des moments où l'OTAN joue un rôle hostile à la Grèce, notamment dans les affaires de Chypre. Et pour Karamanlis, l'ancrage européen est d'une certaine manière la volonté de trouver un contrepoids à l'influence américaine qui, à l'issue de la guerre civile, est totalement étouffante et qui reste étouffante en 1974. Donc il y a chez Karamanlis cette vision géostratégique qui est « nous sommes coincés par le bloc de l'Est au Nord, nous sommes isolés dans un monde slave avec les Turcs à notre porte, et donc nous avons besoin d'un allié et nous avons besoin d'un autre allié que les États-Unis, parce qu'il faut équilibrer les alliances. » Donc ça, c'est le raisonnement de Karamanlis dès 61, d'une manière assez nouvelle en 61, parce qu'on est encore dans une Grèce très autoritaire, et Karamanlis va la normaliser petit à petit, pas assez et trop progressivement, et puis il va être l'homme de la démocratisation après 74. Quant au PASOK,
c'est-à-dire les socialistes,
ils n'ont jamais existé dans la vie politique grecque, parce que la vie politique grecque, elle s'est structurée au XXe siècle entre la droite monarchiste et un mouvement libéral. Venizeliste, qui est le Venizelos, l'autre grand homme de la politique grecque au XXe siècle. Et donc, ils n'ont jamais eu d'espace politique. Et c'est la première fois entre 1974 et 1981, dans l'histoire de la politique grecque, que s'installe un parti de gauche qui va arriver au pouvoir en 81.
Sur un programme anti-européen.
Alors, sur un programme
parce qu'ils cherchaient une place.
Anti-européen, parce qu'ils essayent de capitaliser tout ce que l'Europe occidentale représente de négatif pour la gauche grecque.
Mais une fois qu'il arrive au pouvoir,
qui s'est senti rejeté après 45.
Une fois qu'il arrive au pouvoir, à peu près en même temps que les Français socialistes arrivent au pouvoir, eh ben, il va s'adapter. Et c'est lui qui va assurer l'intégration de Grèce dans l'Europe. Alors, vous avez comparé Karamanlis et De Gaulle. On peut comparer Andreas Papandreou, le leader socialiste du PASOK, à François Mitterrand, à bien des égards.
On peut. À l'époque, en Grèce, dans les années 70, quand on allait en Grèce, les Grecs vous frottaient leurs deux index en disant Karamanlis, Ziskar et Tsiketsi, et 10 ans après, ils disaient Papandreou, Mitterrand et Tsiketsi. Donc oui, le PASOK s'est très vite rallié à l'Europe. Il s'est très vite rallié à l'Europe aussi parce que la Grèce a gardé dans son système politique des aspects clientélistes et que les subventions européennes ont permis au PASOK en quelque sorte de rattraper le retard historique qu'il avait sur la droite en utilisant ces subventions pour alimenter la machine électorale.
C'est votre côté gaulliste. Vous êtes déjà passé au deuxième mandat de Papandreou, à sa période la plus sombre. Nous sommes ici en 1988, quand il est conduit par Mimi. Vous vous souvenez de Mimi?
Ah oui, Mimi.
L'hôtesse de l'air,
plantureuse.
Quand il installe beaucoup de ses partisans dans la fonction publique et qu'on connaît ici ou là, par exemple chez le président de la Banque de Crète, M. Koskotas, des dérives curieuses.
On discute ferme dans les rues d'Athènes. Scandales et coups de théâtre se succèdent. Jamais la vie politique grecque n'a été aussi agitée et jamais le Premier ministre, M. Papandreou, n'a été autant critiqué. Mais en quelques jours, la situation s'est retournée avec la révélation du plus grand scandale de la Grèce moderne. Georges Koskotas, 35 ans, président de la Banque de Crète, très proche du Parti socialiste de M. Papandreou, propriétaire de 3 journaux, d'une équipe de football, accusé d'avoir détourné 300 millions de dollars, parvient à quitter le pays. Il aurait corrompu des membres du gouvernement.
Il y a des gens qui sont corrompus et qui ont les postes les plus intéressants. Et c'est une période très, très, très mauvaise pour nous. Parce que pratiquement, la Grèce n'est pas gouvernée. Ni premier ministre, ni gouvernement en réalité. Papandreou ne s'occupe que de sa jeune maîtresse et de ses problèmes personnels.
Les manifestations se succèdent. Un ministre a démissionné. M. Papandreou vient d'en renvoyer 2 autres qui avaient osé le critiquer. Son bras droit, le ministre de la Justice, accusé par un journal d'avoir demandé 7 millions de dollars pour bloquer l'enquête, a dû abandonner son poste, mais reste au gouvernement.
Pour être juste, il faut dire, Olivier Delorme, que les pots de vin étaient souvent la conséquence d'achats d'avions américains, bien sûr, et français. Ah, les merveilleux Mirage 2000 de chez Dassault. La corruption est fondée largement en Grèce sur l'achat d'armes auprès de fournisseurs occidentaux.
Oui, quand on parle de corruption, il faut toujours dire que la corruption profite d'abord aux corrupteurs. C'est-à-dire que c'est le peuple grec qui a payé les pots de vin en impôts et c'est les industries d'armement. Alors, allemande et française. Il faut savoir que pendant 20 ans, la Grèce a été le premier client de l'industrie d'armement allemande et le deuxième client de l'industrie d'armement française. Et que le champion de la corruption, toute catégorie en Grèce, s'appelle Siemens, qui a notamment vendu des systèmes d'armes et une autre société allemande a vendu des sous-marins qui ne fonctionnent pas parce qu'ils penchent et que leur électronique est défectueuse, etc. Donc, si vous voulez, les marchés d'armement qui sont dus à la situation géostratégique de la Grèce et à l'absence de solidarité des Européens vis-à-vis de la Grèce, ont enrichi l'industrie d'armement franco-allemande et ont participé largement à la constitution de la dette.
Pour être honnête aussi, il faut faire un bilan plus exact de cette période qui s'achève peut-être en 88-90 dans le vaudeville. Vous aimez bien vous repérer dans l'histoire de la Grèce des périodes où la Grèce prend du retard. C'est pas le cas, selon vous, dans les années 1980?
C'est-à-dire que cette période est très contrastée, mais qu'on est aujourd'hui trop dur, à mon avis, vis-à-vis d'Andreas Papandreou, qui a plein de défauts, qui est un démagogue, qui a utilisé le clientélisme, etc. Mais en même temps, il a modernisé la société grecque. C'est l'introduction du mariage civil et du divorce civil, alors que jusque-là, seuls les mariages religieux et le divorce religieux étaient reconnus. C'est l'autorisation de l'IVG, c'est la dépénalisation de l'adultère, on comprend pourquoi. C'est la création d'un état social, la gratuité des soins à l'anglaise avec un service de santé gratuit. C'est la création d'un système de retraite universel, de retraite par répartition universelle.
Un meilleur aménagement du territoire.
Un meilleur aménagement du territoire.
Qui profite même à votre île.
Voilà, moi j'habite sur un petit volcan qui est à deux pas de la Turquie et qui s'est dépeuplé jusque dans les années 80 par l'immigration et qui se redépeuple grâce à la Troïka depuis 5 ans, mais qui, grâce à une politique de développement régional très volontariste, très bien faite et très efficace, a stoppé la dépopulation de certaines régions de Grèce.
Le programme musical, c'est vous qui le choisissez, Olivier Delorme. Alors, c'est un compositeur moins connu en France que Theodorakis, mais qui est aussi important en Grèce, même s'il n'est pas communiste.
Oui, alors, Agilakis a dit un jour, il y a les musiciens qui ont fait avancer la musique contemporaine en Grèce sont soit communistes, soit homosexuels. Tout le monde sait que je n'ai jamais été communiste. Et c'est ici, un des tout grands de la musique grecque.
Et ici, Maria Faranduri, inusable chanteuse et femme politique aussi, chante les palicaria. Alors, les palicaria sont les combattants de tous les combats.
Ouais, c'est les jeunes gens courageux qui prennent les armes quand il est besoin.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Il arrive, dit la chanson d'Agilakis, que les palicaria soient fatigués, mais ils ont toujours l'arme au pied. Les années 1990 vont donner beaucoup de motifs d'inquiétude à la Grèce. Olivier Delorme, vous avez fait un livre, 3 volumes, Folio, Histoire de la Grèce et des Balkans. Les Grecs se sentent une responsabilité dans l'ancienne zone byzantine englobée dans l'Empire ottoman. Et quand le glacis communiste connaît la débâcle et que la Roumanie, la Bulgarie, l'Albanie voient leur régime communiste tomber, la Grèce observe, non sans inquiétude. Et alors, quand la Yougoslavie va être atomisée, la Grèce va se tourner vers l'Union européenne
et dire qu'elle n'a pas pris ses responsabilités.
Oui, alors la Grèce est dans un contexte régional qui est extrêmement compliqué, où les communautés grecques ont toujours joué un rôle au 18e, 19e siècle de diffusion des idées des Lumières. Il y a des rapports, mais il y a des rapports qui sont aussi conflictuels entre Slaves et Grecs. Et donc, tout ça s'enracine dans des situations historiques de très long terme. Avec l'Albanie, le problème, au moment de l'éclatement du bloc soviétique, c'est l'immigration en Grèce. C'est-à-dire que ce pays qui a toujours été un pays d'émigration devient subitement un pays d'immigration et ça ne se passe pas sans problème. Je dois dire que quand même, ces problèmes ont été très enflés vu de d'Occident. Et pour revenir à mon île, je dois vous dire quand même que les travailleurs albanais qui y sont encore aujourd'hui se sont plutôt très bien intégrés. Alors après, l'éclatement de la Yougoslavie est un énorme problème pour la Grèce. Parce que la Grèce a un long partenariat avec la Serbie, que c'est le pays frère des Balkans, que c'est le pays qui s'est révolté presque en même temps que les Grecs contre les Turcs, qui a une fraternité. Et que donc...
Il y a la fraternité orthodoxe aussi.
Il y a la fraternité orthodoxe, mais la fraternité orthodoxe pourrait jouer avec les Bulgares ou avec les habitants de l'ex-république yougoslave de Macédoine, ce qui n'est pas le cas, parce qu'il y a des contentieux avec les Bulgares qui, là aussi, remontent à des situations historiques complexes. Et donc, au moment de cet éclatement de la Yougoslavie, la Grèce a le double sentiment d'être menacée par l'irrédentisme macédonien, et bulgaro-macédonien. Il faut dire qu'il y a eu une occupation du nord de la Grèce par les Bulgares entre 41 et 45 qui a été particulièrement dure et culturellement très difficile puisqu'il y a eu une politique de bulgarisation qu'ensuite la minorité bulgaro-macédonienne s'est engagée dans les rangs du Parti communiste massivement pendant la guerre civile et que donc la naissance d'un État qui s'appelle Macédoine et qui revendique un héritage antique alors que c'est un pays slave, pose un gros problème à la diplomatie grecque, que la diplomatie grecque va traiter avec beaucoup de dureté et très malhabilement.
C'est-à-dire que la Grèce ne veut pas que la Macédoine s'appelle Macédoine. La Grèce bloque l'entrée de la Phirom, c'est le nom qu'elle veut lui donner dans les instances internationales
dont
elle-même la Grèce
encore aujourd'hui dans les instances internationales.
Est membre.
Ouais. Oui, c'est pas seulement une question de nom, c'est une question d'irrédentisme et de constitution. La constitution macédonienne ou de la Phirom est extrêmement ambiguë sur les questions de minorité de l'autre côté de la frontière. Et donc le problème a été présenté de manière simplifiée en Europe occidentale, et les Grecs ont très mal su le défendre.
Oui, et à l'époque, le ministre des Affaires étrangères le plus en pointe sur l'anti-Macédoine, c'était M. Samaras, le Premier ministre sortant de Grèce, qu'on nous présente d'habitude comme un modèle de modération. Mais l'excitation pouvait gagner de très nombreux manifestants, et puis dans les rangs du PASOK, de très nombreux responsables. On n'a pas encore entendu jusqu'ici, il le fallait, Mélina Mercouri, qui a été ministre de la Culture dans les années 80, et qui se retrouve à ce poste aussi dans la dernière année de sa vie, en 1993.
Tous les Grecs, on est un peu unique avec la très belle histoire que nous avons, avec la façon dont on se comporte dans des moments difficiles, dans des moments où on va toucher la Grèce. Ce n'est pas du nationalisme exactement, c'est du patriotisme. Et les Grecs sont des patriotes. Nous pouvons faire descendre 2 millions de personnes pour dire un non. Ce n'est pas du nationalisme, c'est vraiment notre histoire, c'est vraiment aussi notre présent et notre avenir qui est très en danger, vous savez. Nous sommes entourés, pas d'amis. Les Turcs attendent, nous avons Chypre, il y a Skopje, il y a l'Albanie, il y a la Bulgarie, il y a tout autour des gens qui s'apprêtent à faire l'assaut vers Macédoine.
Et tout autour, il faut donner une place singulière aux Turcs. Alors vous habitez une île face à la Turquie. Il y a un espace maritime autour de votre île qui est bien délimité. Le plateau continental n'est pas contesté.
Donc c'est tout le problème de l'Égée. C'est-à-dire que depuis 1974, les revendications turques revendiquent un espace économique maritime, aérien, etc. sur la moitié de l'Égée, la moitié orientale, en désaccord total avec tout le droit international. Et que la menace est continue. Mon île est, comme beaucoup de petites îles de cet endroit-là de l'Égée, régulièrement, l'espace aérien y est régulièrement violé par des chasseurs turcs. Vous savez, il y a eu l'histoire d'Imia il y a quelques années. Donc la menace est permanente. Elle est permanente à Chypre où...
Où 37% du territoire sont occupés toujours par la République turque.
Colonisés.
La Turquie est 7 fois plus peuplée. Son armée est 4 à 5 fois plus puissante. Le plateau continental, les îles, les affaires, les pêcheurs en difficulté. Néanmoins, il y a eu un moment. Et ce moment a curieusement précédé l'entrée de la Grèce dans l'euro, où on a vu les responsables grecs tenir un langage conciliant et se porter même au-devant des Turcs pour leur offrir l'adhésion à l'Union européenne.
Oui, alors c'est le dernier des Papandréou, celui que les Grecs appellent le petit Georges, Yorgakis, l'ancien Premier ministre jusqu'en 2009, qui a été l'initiateur de cette politique de la diplomatie des tremblements de terre, puisque ce rapprochement s'est opéré après le tremblement de terre d'Izmit en 1999. Bon, moi, je pense que ce rapprochement a été, de toute façon, l'opinion grecque n'y a jamais cru. La Turquie n'a jamais fait aucune concession, n'a jamais fait un pas. Et d'autre part, l'adhésion de l'ouverture des négociations avec la Turquie dans le cadre de l'élargissement européen a, à mes yeux, été le paiement de la Grèce pour l'accord pour l'entrée dans l'euro qui a eu lieu 6 mois plus tard, 6 mois après la levée de son veto à l'ouverture des négociations. Donc quand on dit que la Grèce a triché pour rentrer dans l'euro, elle n'a pas triché. Tout le monde a fait des manipulations comptables pour rentrer dans l'euro. Il y avait le Luxembourg et le Danemark qui ne voulaient pas y aller, qui pouvaient rentrer. Donc les manipulations grecques n'ont pas été plus importantes que les autres. Mais il y a eu un vrai deal politique. C'est-à-dire que je pense que le deal politique a eu lieu en 1999. Vous levez votre veto à l'adhésion à l'ouverture des négociations avec la Turquie, nous vous acceptons dans l'euro.
Dites-moi.
Les archives ne sont pas ouvertes, je ne peux pas l'affirmer, mais je...
Dites-moi, Olivier Delorme, l'Europe ne peut pas abandonner la Grèce à son sort, parce que la Grèce est à une charnière sensible et que la Turquie a maintenant un rôle de plus en plus ambigu. Ça lui permet à la Grèce, alors qu'on dit qu'elle n'a pas de marge de manœuvre, de retrouver sa tradition, vous appelez ça le kleftisme.
Oui, le kleftisme, c'est la vieille tradition de la révolte contre l'Empire ottoman et de la lutte dans le maquis. Alors c'est pas, on n'en est pas là exactement, mais il y a effectivement une position charnière qui est une position géostratégique que l'Europe aurait tort dans les circonstances actuelles.
Et puis on peut finir avec
la dérive de la Turquie de négliger.
On peut finir avec votre personnage préféré, mieux encore que Karamanlis, Makrianis. Quand le premier roi de Grèce, qui était un Allemand détaché par la Bavière, venait, Makrianis lui disait « Je suis le sujet de ta majesté, pas de votre majesté ». Et qu'est-ce qu'il disait après ?
Ah ben je ne me rappelle plus. Mais parce que
je vous cite,
oui.
« Je ne suis pas ton esclave ».
Je ne suis pas ton esclave. Eh ben voilà, vous y êtes et c'est l'actualité.
Merci à vous. Votre livre « Histoire de la Grèce et des Balkans » chez Folio. L'émission était réalisée par Jacques Sigal avec à la technique Guillaume Roux, Ilinka Negulesco, Frédéric Martin, Franck Olivard.